trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Éric Venet est à nos côtés, le directeur de la gestion de Montbleu Finance. Bonsoir Éric.
Bonsoir Grégoire.
Kevin Lenoy nous accompagne également. Bonsoir Kevin.
Bonsoir Grégoire.
Vous êtes directeur associé chez Avantgarde Family Office et ravi de retrouver autour de ce plateau et de ses micros Nicolas Chéron en chair et en os. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Grégoire.
Merci de faire un petit passage chez nous à l'occasion de votre venue à Paris. Vous êtes stratégiste indépendant aujourd'hui. Gardez la parole, Nicolas, petit commentaire là sur l'ambiance de marché. Avril-mai marque quand même un petit coup d'arrêt, une consolidation latérale, comme disent les techniciens de marché. Est-ce que ça nous amène sur une pente forcément glissante pour ceux qui s'en inquiéteraient, ou est-ce que c'est simplement le signe d'une respiration avec peut-être un petit manque de catalyseur à court terme aujourd'hui ?
Oui, je pense que c'est cela, c'est un manque de catalyseur pour l'instant, un attentisme exacerbé aussi avant notamment la décision de la BCE, évidemment. Des belles performances depuis le début de l'année hein, sur toutes les classes d'actifs. Entre janvier et mars, on a eu une envolée de plus 15% sur le Nasdaq, qui caracole encore sur ses records historiques tirés par Nvidia. Mais quand on regarde sinon les autres actifs, on a l'or qui fait du surplace depuis 3 mois à peu près, après avoir atteint des records historiques autour de 2 400 $ l'once. Le Bitcoin qui se stabilise autour des 70 000 $, même chose, attentiste sous ses records historiques, mais tout de même bien soutenu. Le CAC 40 qui fait du surplace depuis 3 mois, qui se cherche, on cherche quoi dire pour expliquer en fait ce qu'il se passe. Je pense que les investisseurs sont dans le marché, sont confiants, sont attentistes. On a la période estivale devant nous. Une période estivale, ça peut être une période de moindre liquidité, potentiellement de trous d'air. Mais pour ce qui est de parler de retournement, de cassure, de mauvaises nouvelles, on n'y est pas pour le moment. Donc on l'évite.
Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ? Je pense notamment au fait qu'on voit le rebond et le réveil des small caps, particulièrement en Europe. Peut-être que de ce point de vue-là, la situation américaine est différente de la situation européenne. Et que nous dit un peu ce signal de rattrapage de toute cette partie de la cote moyenne et petite capitalisation qui a été longtemps en sous-performance ?
Il y a eu une sous-performance effectivement assez énorme de par un désintérêt des small caps. Il y a eu énormément de flux vers la gestion passive qui sont allés dans la tech et dans les grosses capitalisations. Il y a eu un désintérêt des gérants. Il y a eu des sorties de capitaux aussi chez de nombreux gérants qui sont spécialisés sur les small caps françaises et européennes. Mais on voit la matérialisation de l'espoir... Enfin, des baisses de taux qui, en théorie, devraient être un soutien à ce pan du marché. Ce sont des taux relativement élevés qui avaient pesé en fait sur tout ce pan de la cote. Donc désormais, si ça devait se détendre de ce côté-là, mais on attend d'en savoir plus évidemment, eh bien les small caps pourraient en profiter. Donc on a vu des rattrapages. On a vu des redémarrages de small caps qui étaient attentistes depuis 6-9 mois. Et puis, on a des rattrapages aussi de tous les mauvais élèves. Donc là, on a vraiment un intérêt. Et pour les gens qui font du stock picking, notamment, on a pas mal de choses à faire sur toutes les small caps françaises.
Et quand vous dites, effectivement, le rebond des mauvais élèves, ça veut dire que la moindre qualité arrive à rebondir parfois plus fort, d'ailleurs, peut-être que la qualité dans ce mouvement-là ?
On a vu en fait des sociétés qui continuaient de publier des résultats qui n'étaient pas au top, mais qui nous faisaient des prévisions un tout petit peu meilleures que précédemment, et qui pouvaient engendrer des rebonds de 10, 15, 20, 30%. On a quand même plein de petites valeurs qui étaient complètement au tapis, certaines depuis un an, deux ans.
Un champ de ruines.
Je pense qu'il y a d'une part les gérants, d'autre part les particuliers. Il y a moins de choses à faire en fait sur d'autres actifs pour ceux qui cherchent de la volatilité qui s'ennuient sur les cryptos, chose qui est relativement rare. Je pense qu'en ce moment ils sont allés sur les small caps qui avant d'ailleurs étaient le foyer de volatilité des marchés actions.
Bon Eric, donc tous sur les small caps ?
En fait Nicolas vient de le dire, c'est-à-dire qu'en fait pas mal d'actifs sont hauts déjà. Et donc, le marché des mid et des small, c'est the place to be. Enfin, pour l'instant, il n'y a plus que celui-là où on peut trouver de la volatilité et donc de la performance. Néanmoins, ça reste quand même... les flux ne sont pas forcément excessifs. Pour l'instant, il y a un intérêt avec des rattrapages sur des titres qui avaient été complètement massacrés. Mais pour l'instant, ça reste juste... Bon, on peut justifier parce que, effectivement, on va entériner une baisse des taux, donc on peut justifier des, macroéconomiquement parlant, mais il n'y a pas encore un intérêt puissant.
C'est juste un premier étage.
Oui, c'est une première étape. Oui, oui.
Et je pense que ça reste tactique.
Oui, pour l'instant, oui.
Et pas encore complètement stratégique.
Bah, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait simplement que, justement, on atteste une baisse des taux régulière, en fait. Et donc, pour pouvoir dire, bah, les conditions financières s'allègent et on va pouvoir prendre davantage de risques et puis les entreprises lever davantage de capitaux puisqu'on y aura un peu plus d'appétit. Et c'est ça dont on a souffert, enfin, pas la plupart, mais beaucoup de petites entreprises. Donc, pour le justifier économiquement, ouais. Il faudrait qu'on ait une baisse des taux régulière annoncée par les banquiers centraux.
Et la BCE ne nous offrira pas cette visibilité demain ?
Non, je ne crois pas. Pour moi, elle va acter le processus de désinflation pour mettre tout le monde d'accord et puis pour éviter de penser qu'on pourra encore remonter. Et du coup, c'est le point de départ obligé. Il fallait ce absolument là pour qu'on ait une reprise du marché des mid et des small. Au fur et à mesure que dans le marché, on se persuadera que c'est effectivement un nouveau cycle qui démarre.
Je comprends.
Parce que je ne suis pas encore bien.
Vous n'êtes pas encore sûr de ça ?
Pour moi, elle accompagne pour l'instant. Ouais. Ce n'est pas encore non plus très, très puissant. Et quand on se persuadera de ça, alors effectivement, on aura un rattrapage massif parce qu'il y a un retard considérable sur ce marché-là.
Kevin, comment vous regardez la situation de marché un peu globale ? Comment on peut imaginer le cycle ou les développements devant nous ? Et puis, il faut évidemment parler de l'éléphant dans la pièce, la décision de la BCE attendue demain. Est-ce que ça a déjà généré peut-être comme attente de la part des investisseurs ? Et est-ce que ça peut avoir des conséquences supplémentaires ? Une première baisse de taux en zone euro, qu'est-ce que ça change ?
Alors déjà, le point de départ est relativement intéressant, je pense qu'on s'entend là-dessus, c'est qu'en effet, on arrive à une première moitié de l'année qui était relativement bonne, flatteuse, on va le dire comme ça, sur les performances, en tout cas pour les actifs risqués, on va dire comme ça. Demain, de mon point de vue, en effet, va marquer l'introduction à un nouveau chapitre. L'introduction seulement.
Ah ouais.
On va a priori, en effet, je pense que c'est consensuel, prendre acte d'un pivot réel avec, évidemment, une baisse des taux de la BCE. Mais évidemment, ce qui nous intéresse, comme le précisait Eric, c'est le calendrier qui peut potentiellement ensuite arriver derrière. Et c'est ça, éminemment, qui va nous intéresser dessus, parce que la baisse des taux en tant que telle, on a l'introduction, a priori, on connaît tous la musique, mais on n'a pas la partition complète. Et c'est vraiment ce qui va nous manquer demain. La baisse des taux, globalement, je pense qu'on fera tous nos choux gras ou nos articles de publication à nos clients dessus. La réalité des choses, c'est que c'est l'ensemble de la conférence qui va nous intéresser. Est-ce qu'on a demain un calendrier qui nous est non pas posé, mais qui en tout cas commence à être introduit pour un cycle accommodant. Et ça, c'est beaucoup moins certain. Donc demain, de mon point de vue, porte encore beaucoup, beaucoup d'incertitudes.
Ouais, je comprends.
Je le crois ainsi.
Ouais.
On a aujourd'hui des investisseurs qui se retrouvent globalement à la confluence de beaucoup d'hypothèses. On va aller tester justement beaucoup d'hypothèses. Les hypothèses macro, évidemment, sont testées en termes d'inflation, bien entendu, en termes de croissance. Et en plus de ça, on quitte un scénario qu'on a revu sans cesse depuis le mois de décembre. On arrive enfin à un premier élément de réponse. Et cet élément de réponse, il est fondamental. Donc la baisse des taux, encore une fois, n'est pas un événement de mon point de vue, mais la conférence pourrait vraiment acter quelque chose de beaucoup plus important. Demain, on ne rentre a priori absolument pas dans un cycle accommodant. On est encore très loin, non seulement du taux neutre, ça c'est évident, mais bien plus que ça, d'une vraie projection sur les baisses. Mais potentiellement, d'ici quelques mois, je pense qu'on pourra revenir en arrière et se dire que oui, le 6 juin, on a pris une certaine forme de pivot important sur les marchés financiers.
Ouais. La Banque du Canada baisse ses taux aujourd'hui exactement sur cet argument. On accompagne, on constate exactement la désinflation, voilà, ils sont passés de 9 à 3 comme tout le monde, etc. On constate ce mouvement de désinflation, on sanctionne par une première baisse de taux. Il y en aura peut-être d'autres au fur et à mesure que la désinflation pourra se
Le signal
se
est nécessaire.
Mais aucune banque centrale à ce stade ne parle d'un réglage de politique qui deviendrait accommodant.
Absolument pas. Absolument pas.
À la BCE, on est bien clair là-dessus. Hein. Quelques baisses de taux, ça enlèvera juste un peu du degré de restriction monétaire qu'on a infligé aujourd'hui aux économies.
Quelques baisses de taux et non pas d'une seule, absolument. Donc de ce point de vue-là, on est
Je pars du principe que jamais un sans deux. Enfin, je veux dire, on ne peut pas en faire une première si on n'a pas en tête quand même qu'on puisse en faire une deuxième, voire une troisième, etc. Mais la question étant jusqu'où et à quelle vitesse on y va, quoi.
Absolument. Donc de ce point de vue-là, on a beaucoup d'attentes. On n'aura sûrement pas les réponses demain, je m'entends tout à fait avec Eric. On entend quand même aujourd'hui, on attend, pardon, des sujets de vocabulaire, enfin des mots, globalement, qui pourraient être posés, qui pourraient malgré tout nous indiquer, j'allais dire, allez, c'est une baisse au quiche pour rebondir sur la
sur la retenue, quoi.
Sur la retenue, d'accord. Exactement.
Ok. En restant sur la retenue. Mais c'est le signe aussi quand même que les banques centrales ont gagné en confiance dans ce processus de désinflation, dans les projections qu'elles peuvent faire aussi, même à court terme, de l'inflation. Ça a été un gros sujet quand même, la fiabilité des modèles de prévision, etc.
Chapeau pour l'instant.
Bah, depuis quelques mois, visiblement, la BCE est bien plus à l'aise avec son modèle de prévision qui vise plutôt à beaucoup plus juste, en tout cas, que sur la période 2022-2023.
Ouais. Alors un élément qui pourrait peut-être changer la donne, c'est de montrer au marché que la BCE se soucie un peu plus de la croissance. Ce qui voudrait signifier également que si jamais on a un léger rebond de l'inflation, ça la démarque et que ça ne l'empêcherait pas de poursuivre son cycle. Donc, sans le dire, en fait. Donc, globalement, si je dis, on a bien noté que l'Europe repart, on ne voudrait pas que
Ça fasse pchit.
On va accompagner ça. Donc, déjà, c'est une façon de se dire, je suis pas hyper dépendant de ma prochaine statistique d'inflation si jamais il y a un 0,1 au lieu de... ça me permettrait de me donner un peu d'air et donner une vision au marché.
Regarder un peu au-delà, quoi. Voilà, lever la tête au marché, du guidon. Voilà.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a besoin. Là, du coup, j'ai pas besoin d'avoir tous les trois mois, mais je vois un peu plus de choses parce que je sais qu'elle va soutenir, que la priorité sera... un peu, peut-être que je fais un wishful thinking, mais c'est plus important d'accompagner la croissance, et quitte à laisser, sans le dire, trop filer l'inflation. Ce qui n'est pas le cas, parce que pour l'instant, la désinflation est bien dans les cordes, hein, ça c'est très bien.
Oui, en ligne avec en ce ligne. Qu'imagine la Banque
mais
Centrale
Européenne.
Mais
pour se décharger d'une pression au prochain signe d'inflation qui ne serait pas forcément terme, si je dis... OK, on va poursuivre, et en surveillant la croissance, ça m'irait très très bien.
Qu'est-ce que ça vous inspire, cette conversation permanente autour des banques centrales dans le marché? Est-ce que ça a autant d'impact encore aujourd'hui que quand on était vraiment dans des surprises inflationnistes majeures, avec des réactions violentes et fortes des banques centrales? Est-ce que c'est un peu plus balisé? Est-ce que ça reste un sujet pour les obligataires et un peu moins concernant, j'allais dire, pour d'autres types d'investisseurs, Nicolas?
Ça peut engendrer un peu de volatilité à court terme. Demain, je pense qu'on va tous faire une étude de dialectique, en fait.
Ouais,
on va aller chercher des adjectifs pour voir s'il y a une modification de la stratégie. Je pense surtout qu'ils vont acter la réussite de leur lecture et de leur stratégie au niveau de l'inflation. Donc, et puis, la BCE sera très heureuse de baisser les taux avant la Fed.
Ça, c'est clair.
Et donc,
après beaucoup d'hésitations, je pense que oui, ils pourront être contents, effectivement, de pouvoir le faire à ce moment-là. Ouais.
On a une croissance qui repart un petit peu. Bon, après, si on fait le bilan depuis 2019, on a 3% de croissance du PIB, là où les États-Unis ont fait 10%. Mais bon.
Ouais, mais comme dit Eric, d'où l'idée qu'elle soit peut-être un peu plus attentive ou bienveillante vis-à-vis de l'histoire de croissance qui
est
devant nous.
Bienveillante, puis elle a une fenêtre de tir qui est plus agréable, en quelque sorte, parce qu'il n'y a pas les élections américaines en ligne de mire. Donc, elle a un peu plus les mains libres. Elle va pouvoir suivre la croissance, effectivement, je suis complètement d'accord avec vous. Et il n'est pas dit que, on n'est pas encore possiblement une ou deux baisses de taux d'ici la fin de l'année par la suite. Mais encore une fois, je te rejoins, ce n'est pas demain qu'on va avoir un calendrier, une cible d'inflation et des choses comme ça. On va un peu rester sur notre fin, je pense.
Oui, le Conseil des gouverneurs reste très divisé à ce stade sur, effectivement, la visibilité qu'on pourra offrir aux investisseurs à l'issue de cette première baisse de taux.
Absolument. Et déjà, de rajouter de la croissance, entre guillemets, à la feuille de route, serait déjà un pas en avant qui n'est pas négligeable. Donc, c'est déjà une attente qui me paraît élevée, que je demande à voir se délivrer. Par contre, ce que cela dit, c'est qu'on est en train d'ergoter, en effet, depuis 10 minutes sur une baisse des taux. Ça rejoint aussi ce que disait Nicolas sur les catalyseurs qu'il nous manque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on se focus là-dessus, c'est qu'on est arrivé au bout d'un grand nombre d'hypothèses qui viendrait soutenir les marchés ou nous permettre d'aller un peu plus loin. Parce qu'on va évidemment arriver au sujet qui fâche, à savoir ceux de certaines valorisations. On peut évidemment commencer par les small et mid, donc on va se rassurer sur le niveau des valorisations. Dès lors qu'on regarde les niveaux equity indiciels large cap, non pas on ne se fait peur, c'est pas le sujet, mais on arrive sur des niveaux qui asymptotent, voire on quitte parfois le champ statistique, vous savez, les plus 1, 2 écarts types. Quand on regarde aujourd'hui les niveaux S&P, les niveaux CAC, en termes de valorisation, on a besoin aujourd'hui d'avoir du gaz, si je peux me permettre l'expression.
Et de se point de vue-là. Est-ce qu'on peut faire un lien direct entre petite reprise du cycle en zone euro, accompagnée par la BCE, et un momentum bénéficiaire des entreprises qui pourraient gagner un peu en traction au fur et à mesure des prochains
trimestres ? Totalement, on va avoir besoin de retrouver ce répondant-là. N'oublions pas qu'au premier semestre, on peut sembler l'oublier, mais on a eu un répondant de la micro face à la macro, on a eu un épuisement macro, et finalement on avait des publications qui étaient de très bonnes à voir. Aujourd'hui, on remet la macro sur le devant parce que c'est plaisant et ça nous donne en fait le momentum, mais en réalité, il nous faut de la publication maintenant pour aller plus loin. Donc on va en effet remettre cela sur l'établi. Et encore une fois, on en a surtout besoin en termes de valorisation, parce que quand on prend nos ratios à brûle pour point, il nous manque des points de croissance encore, donc de la reprise macro certes, mais des résultats bénéficiaires pour aller beaucoup plus loin.
Oui, on n'achète pas au son du canon là, quoi.
Absolument pas, je ne le crois pas. Et on pourrait même remettre cela d'ailleurs sur l'établi des small et mid, parce que en réalité aujourd'hui même sur les small et mid cap, il ne faudrait pas oublier qu'on sort également d'un champ de ruines, c'était parfaitement dit, mais un champ de ruines aussi parce qu'on était en récession bénéficiaire sur l'année dernière. Ouais. Donc en réalité, on a aussi un décalage de cycle de leur côté. Et donc de ce point de vue-là, il ne faudrait pas qu'on aille se confronter maintenant sur les larges à une asymptote aussi de croissance, parce que si on se retrouve avec certes de la macro qui s'améliore sur les taux, mais des niveaux de valorisation qui ne sont pas suivis de rattrapage bénéficiaire, on connaît éventuellement la suite de l'histoire.
À propos de valorisation, Nicolas, je vous laisse commenter bien sûr, mais il faut absolument qu'on parle de la tech, puisque on voit bien que Nvidia, je veux dire que les taux soient 4,5, 4,60, 4, Nvidia vit sa vie un peu en dehors de cette conversation autour des banques centrales. Et donc derrière Nvidia, c'est quand même aussi le segment technologique, le Nasdaq et même la tech en Europe, qui fait bien quand même depuis le début de l'année. Est-ce que les moteurs propres à la tech sont toujours là ? Les vents porteurs, le thème de l'IA, est-ce qu'on peut analyser la valorisation de ce secteur sans s'effrayer et en restant à peu près rationnel par rapport à ce qu'on peut imaginer, ou est-ce qu'il y a déjà des signaux qui doivent nous mettre un peu sur la défensive ?
Il y a quelques petits signaux qui commencent à s'allumer dans le sens où on bat certains records, où on se retrouve dans des ratios qui parfois peuvent paraître un peu délirants. Quand on regarde le poids du top 10 dans le S&P 500 ou dans le Nasdaq, on voit qu'on est sur des ratios qu'on n'a pas vus depuis 20 ans, 30 ans. Et c'est jamais des choses qui ont été soutenables, en fait. On avait les Magnificent Seven, puis les Magnificent Five, puis Three, puis maintenant on est dans le One. Nvidia tire tout.
C'est le S&P 1.
Et en fait, le S&P, il y a la moitié de la performance de cette année qui est due à 4-5 valeurs.
Ouais, c'est ça.
S'il n'y a pas ça, on est relativement flat. Sur le Russell, on est complètement flat sur un an. On n'a pas bougé. Donc en fait, Nvidia, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Le marché ne fait pas grand-chose. Et il y a une volonté des opérateurs d'être dedans. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'opérateurs, que ce soit des particuliers ou des professionnels, qui courent après le papier, parce que s'ils arrivent à la fin du premier semestre, certains gérants et qui n'ont pas de Nvidia en portefeuille, leurs clients vont un peu grincer des dents. Donc il y a un peu du FOMO, du fear of missing out, de la peur de manquer le mouvement. On voit un VIX qui est sur des plus bas de 30 ans. Il y a un on est quasi sur de l'euphorie dans certains comportements. On voit les mêmes stocks, GameStop et autres, qui de nouveau décalent. Et ça, généralement, on le voit quand on a atteint un certain paroxysme sur le reste du marché. Il y a un manque d'idées, on veut de la volatilité, donc on va aller sur de la piètre qualité. Et les mêmes stocks, c'est typique de phases de FOMO, de spéculation accrue.
Et voir une résurgence de ces valeurs-là, de liées à la foule et au mouvement de foule, à ce moment-là, vous dites, c'est forcément un petit warning. Même si ça a duré beaucoup moins longtemps qu'en 2021, mais c'est pas qualitatif.
C'est pas qualitatif, et on le voit sur les réseaux, des gens qui disent, de toute façon, Nvidia...
Et ça, c'est l'apanage du marché américain, ou est-ce qu'on retrouve ces comportements et ces phénomènes en Europe? Ou est-ce que, j'allais dire, la situation du marché action en Europe, avec ce qu'on a dit de l'élargissement au mid, au small, etc., est-ce qu'il y a un niveau... d'un marché plus sain en Europe que ce qu'on observe aux États-Unis, ou...
Il n'y a pas cette exubérance, en fait, cette volatilité, ce type de valeur. On n'a pas d'équivalent de... Il n'y a que de la tech américaine. Donc c'est
non, mais les mouvements de foule, on pourrait bien les avoir sur des valeurs européennes aussi.
On aimerait bien.
Ouais.
sur les small, tu retrouves un flux un certain flux aujourd'hui qui pourrait, on n'est pas dans l'excès absolu, hein, je te rends super parole, mais sans être dans l'excès absolu, le retour du flux, il peut quand même prêter à confusion, puisqu'encore une fois, il n'y a pas de vraie amélioration, comme tu disais en introduction, de justification fondamentale aujourd'hui, en tout cas sur l'ensemble des titres.
Ouais. Et donc il y a des poches d'excès, quoi,
ouais.
Quand même. Bon, sur la tech, je ne sais pas comment vous regardez ça, Eric, ben, à ce stade, parce que forcément, c'est une question, on surveille ça comme le lait sur le feu, parce que on comprend tous l'enthousiasme, et puis on a quand même tous en tête un peu aussi l'histoire des excès de marché. Donc,
C'est en dehors de tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire avant la discussion avec Nvidia, tous les paraphrases sur la baisse de taux, tout ça, c'est l'ensemble des marchés financiers, on peut dire, et là, il y a le phénomène intelligence artificielle, Nvidia. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez des très 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 grosses entreprises américaines qui achètent des puces de Nvidia parce qu'il leur faut et ça leur coûte une blinde.
Oui.
Après, à un moment donné, il faudra bien se poser la question, mais qu'est-ce que ça va me rapporter en face, en fait, hein? Pour l'instant, bon, ça fait des beaux joujoux. Enfin, je suis pas un spécialiste, mais vu de l'ensemble, c'est OK. Mais à un moment donné, quelqu'un va se dire... Bon, t'as dépensé X dizaines
de milliards. L'an dernier, 50 milliards d'achats de GPU Nvidia.
Et c'est quand le retour sur investissement? Alors on peut dire, bah oui, c'est un investissement en futur, mais on a vu la même chose sur Meta. Alors,
est-ce que c'est le moment de se poser la question de la rentabilité? On l'a fait hier, voilà, mais est-ce que le marché peut ou va s'inquiéter là, maintenant, de la rentabilité de l'IA, alors que ça fait un an que le thème est en place, qu'on déploie, alors effectivement, des GPU un peu partout dans tous les data centers disponibles. Mais,
oui, donc je sais pas si ça va s'arrêter maintenant, mais j'ai l'impression quand même que tout est déjà dans...
Ouais.
Et que
la première phase de l'IA était bien intégrée.
Si on devait avoir un accident de marché... Voilà.
D'accord.
Ça viendrait de là. C'est-à-dire que pour une raison dont je ne sais pas, on se pose une question ou un concurrent. Enfin, encore une fois, je ne suis pas assez spécialiste de la techno mais comme on est complètement hors marché.
Ça veut dire dans la gestion, qu'est-ce que ça veut dire, Eric? Ça veut dire qu'il faut être prudent.
Bah, bien sûr.
Toujours.
La question, c'est mon client il veut du Nvidia, je lui en mets. Sinon, je ne peux pas.
D'accord, ok.
Moi, je ne peux pas. Donc, okay. Parce que c'est en dehors de.
Rentrer sur du Nvidia aujourd'hui, c'est compliqué.
Non. Alors, c'est que certains l'ont fait, ils ont pris 30% en une semaine, ok, waouh. Wow.
Qu'on peut reperdre
Nicolas
une semaine aussi.
Oui, génial, mais bon.
C'est un titre qui est extrêmement volatile.
Oui. Bah, ça fait un moment qu'on n'a pas vu moins 30 sur Nvidia quand même.
Bah, il y a trois mois, elle était passée de 1000 à pratiquement 750, donc 25% à peu près. Mais sur SMCI également, il y a des mouvements qui sont extrêmement volatiles et spéculatifs. Après, je ne vois pas quel pourrait être cet accident.
Ben, le changement de regard, justement, là-dessus, on se pose la question sur ou un concurrent qui fait que tout le monde veut ses puces de Nvidia, mais...
Il y a des baisses de prix possiblement qui pourraient se mettre en place en Chine parce qu'on a Huawei qui fait de la concurrence. Il y a AMD qui court après Nvidia et qui a un retard technologique et qui essaye de revenir sur le marché, de grignoter des parts de marché. Après, est-ce que c'est de nature à déstabiliser Nvidia et l'ensemble de ce pan de marché? Je ne sais pas. Mais il y a un flux totalement hallucinant sur tous ces techs et IA.
Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont des clients d'une taille financière tellement délirante qu'effectivement, tant que ces clients considèrent qu'ils ont besoin de s'équiper et que même si pour l'instant il y a des GPU qui ne servent à rien, ils serviront demain, je veux dire, la puissance financière pour passer des commandes, elle est sans équivalent, quoi.
Oui, la structure est sans équivalent non plus. On a affaire à une poignée de clients d'Nvidia qui sont richissimes. Donc ils vont dépenser leur argent. J'ose pas croire qu'un jour on va se poser la question, est-ce que l'argent est bien dépensé? Je sais pas.
Ah bon, si, ça. Je pense qu'il y a toujours des moments de rendez-vous de ce genre-là, hein, je pense. Comment on gère ça auprès des clients privés, Kevin? J'imagine, il y en a quand même certains qui veulent être dans le thème de l'IA. Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur propose pour quand même essayer d'équilibrer les risques aussi par rapport aux opportunités, hein,
Déjà, on y va de manière fondamentale. Je vais être très rébarbatif avec ça, mais ce n'est pas notre style d'investissement de faire de l'aller-retour. Donc, on se pose sur le dossier. Le dossier Nvidia n'est pas celui que je connais le mieux, certes, mais aujourd'hui, en termes de valorisation, on envoie certes un warning à nos clients, non pas sur une chute très violente, je m'entends assez bien avec toi, mais sur un certain moment, en fait, arriver là aussi au bout des hypothèses. En fait, aujourd'hui, payer Nvidia sur ces niveaux-là ne me choque pas dans l'absolu, parce qu'en fait, c'est très cohérent avec les niveaux de croissance présentés. Les niveaux de croissance de start-up, ça se paye, hein, c'est pas un sujet. On le paye tous les jours en private equity, en fait, donc j'ai pas de sujet de ce côté-là. Par contre, la question qui va se poser, c'est de la continuité du mouvement. Et en réalité, un investisseur, aujourd'hui, quand il vient toquer pour ce type de valeur-là, je ne suis pas convaincu qu'il veuille acheter du Nvidia. Il veut acheter la performance de Nvidia, ce qui est totalement différent. Et c'est là où notre warning, entre guillemets, est, je pense, nécessaire, de mon point de vue. Donc, à mon avis, c'est le sujet. En termes de retour sur investissement, je serais bien trop, comment dire, je serais bien trop assertif à juger si aujourd'hui c'est un retour en investissement.
Oui, non,
je ne suis pas convaincu que ce soit un des plus mauvais investissements que puissent faire ces sociétés-là, d'autant plus qu'on évoque beaucoup l'IA ensemble sur ce plateau, mais Nvidia aujourd'hui est connectée en réalité à un ensemble de technologies sous-jacentes qui vont à mon avis bien plus loin que l'intelligence artificielle au sens où on l'entendrait seulement par le ChatGPT en réalité.
Mais ça veut dire, si on considère que Nvidia, pour des profils d'investisseurs qui veulent rester prudents, est un dossier compliqué, comment on met de l'IA dans son portefeuille au-delà de Nvidia? Est-ce qu'il y a une manière d'être exposé, alors j'allais dire assez purement à l'IA à travers d'autres entreprises, d'autres secteurs aujourd'hui?
Oui, il y a d'autres manières de le faire. On a aujourd'hui des secteurs qui sont des valeurs qui sont porteuses. On a rentré des valeurs en portefeuille qui vont y toucher, mais qui n'ont pas les mêmes performances, donc qui aujourd'hui sont déceptifs si on regarde uniquement sous le fond de la performance. Le sujet pour s'exposer à la tech, à l'intelligence artificielle et à Nvidia, je vais être très brut, c'est de faire de l'indiciel aujourd'hui. On a assez parlé sur la concentration. Aujourd'hui, nos clients achètent soit du sectoriel, pour ne pas faire de picking, soit de l'indiciel, en réalité.
D'accord.
Et on le sait aujourd'hui, porter du S&P en portefeuille, porter du Nasdaq en portefeuille...
Oui, c'est être exposé à l'IA. Oui, à Nvidia et donc à l'IA.
De l'IA, de manière plus large, voilà. Ouais. Absolument.
Ok. Sur les small et mid cap, je veux bien qu'on vienne un peu sur comment la cote est animée par des opérations sur capital. Alors demain, il y a une nouvelle introduction en bourse. C'est l'ex-Photonis qui s'introduit à la bourse de Paris. Planisware dans les logiciels, ça a bien marché. Hein. J'ai regardé là le cours de bourse. On est à un peu plus d'un milliard de valo de capi au démarrage. On est à 1,5 milliard, 1,6, 1,7 aujourd'hui. Il y a d'autres grosses introductions en bourse en Europe, du M&A également. Est-ce qu'il y a des leçons à retenir de ces opérations à ce stade? Et est-ce que c'est le début d'une fenêtre de tir qui pourrait rester, j'allais dire, constructive de ce point de vue-là, Nicolas?
En fait, lorsque l'on commence à dire que les introductions boursières
reviennent,
passent bien en bourse,
ouais,
c'est qu'il y a un petit warning qui s'allume encore une fois.
Ah oui.
Sur les 5 dernières années, en France, il y a 7 introductions boursières qui sont positives sur 64. Ça fait 11%. Donc 89%, c'est des pertes et qui vont parfois jusqu'à 60, 80, 90%. Donc, il y a
C'est des boîtes qui ont été introduites à leur décharge dans des moments de marché un peu compliqués, enfin dans un cycle de marché qui a été un peu perturbé.
Oui, d'accord.
Mais ah non, mais ça, c'est sûr
moins
que...
80, oui.
Ah bah, à Paris, il n'y a pas de réussite en termes d'introduction en bourse depuis bien longtemps.
On a eu quelques intros au Kawind, Stif, quelques petits noms comme ça qui ont un peu percé, qui ont pris 20, 30, parfois 40% depuis l'introduction boursière. Est-ce que pour autant... je vais parler plus des introductions boursières comme d'une opportunité? Non. Ça reste des valeurs qui, globalement, ont une liquidité qui est relativement faible. Donc, ça veut dire qu'à la moindre déception, au moindre mouvement de marché, c'est moins 25 et très rapidement. Donc, je regarde ça d'un œil amusé. Je me dis que ça fait partie, ou ça montre qu'on a de la confiance dans le marché, certes. Mais de cette conclusion qu'il y a de la confiance dans le marché...
Je comprends. Ça veut dire forcément que les introductions en bourse qui viennent aujourd'hui sont des bons dossiers, ou en tout cas seront des réussites.
Je n'y toucherai toujours pas, et ça fait 20 ans.
Bien sûr, pas faire de primaire. Non, mais ça, c'est des règles qu'on se fixe à chacun. Eric.
Encore moins maintenant, puisque je peux faire la même chose sur le même marché... avec l'historique des valeurs qui en 10 ans et qui se sont fait massacrer, où j'ai vu la réaction du marché. Là, je vais acheter une boîte qu'on me dit qu'elle est très bien, ok, super. Dans En ordinaire, je veux bien, mais là, on est sur un marché sinistré sur le millier de saules.
Non, mais ma question n'était pas de savoir s'il fallait aller au primaire sur ExoSense, enfin Photonis, bah, l'ex-Photonis.
C'est la même question.
Non, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que ça nous dit du marché. Photonis, c'est dans la défense, Planisware, c'est dans les logiciels. Quand on regarde d'où viennent ces boîtes, dans quel secteur, c'est...
Ça nous dit quelque chose, hein?
Bah, j'en sais rien, moi. C'est la question que je pose, oui. Et je mets ça avec les opérations sur capital. Il y a beaucoup d'augmentation de capital, ça se passe bien visiblement, il y a du M&A qui anime la cote. Moi, j'appelle ça de l'animation de la cote, quoi. Donc,
je sais pas ce que ça peut dire.
Alors, je disais tout à l'heure que le private equity voulait peut-être sortir.
Ah bah là, oui, sur Photonis, oui, sur Photonis, oui, c'est une sortie, oui, c'est une sortie, oui, oui. Je rappelle que le dossier, enfin, il y avait un veto du gouvernement, parce qu'à un moment, les Américains voulaient racheter, donc, l'ex-Photonis, on est dans de l'optique pour la défense, etc. Bon, à part le fonds, donc, HDL de Jean-Bernard Lafonta, à l'époque, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs français et européens qui se précipitaient pour investir dans la pépite Photonis, hein, donc...
Non, mais
effectivement, il y a un fonds qui a fait le job,
quoi. Et aujourd'hui, il y a une recherche de liquidité, sûrement. On pourrait faire sûrement une émission complète là-dessus, mais c'est sûrement à mettre au regard aussi.
Et à l'inverse.
D'un intérêt pour le marché également en côté. Hein,
et à l'inverse, et le private equity estime qu'il y a des belles opportunités dans les small and mid cap aujourd'hui.
En private. Ouais. Et au contraire, on a le flanc private et le flanc de la sortie de cote au bout. Et aujourd'hui, sur le marché coté, se posera un jour la question justement de l'avenir du marché coté pour certains.
De ce qui restera, quoi.
Bien sûr.
Oui. Non, mais j'ai toujours, c'est ce que je dis, j'ai toujours ce double sentiment quand je vois Neoen, par exemple, sortir au bout de seulement 6 ans d'histoire boursière, alors à un prix exceptionnel, à des multiples exceptionnels, 18 fois l'EBITDA, etc. L'opération est magnifique et restera dans les annales. Mais c'est vrai que sur le plan boursier, quand je vois qu'il y a des boîtes qui sont cotées depuis 100 ou 150 ans, je me dis que 6 ans, c'est court, quoi.
Histoires différentes.
C'est très dommage, Nicolas.
Ça dépend pour qui.
Oui, pour nous, investisseurs.
Quand on cherche des idées, effectivement, dans les small and mid, ça en fait une de moins, je suis d'accord.
Pour nous, investisseurs, parce que malheureusement,
les actionnaires de Neoen, ils ont été
on n'a pas énormément de sociétés qui sont cotées dans le renouvelable, qui sont qualité en France. On avait Albioma qui était sorti il y a un an et demi. Il restait Neoen, il reste Voltalia
dans le secteur,
qui a profité.
On aura peut-être d'autres, à travers les introductions en bourse, je sais pas.
Mais c'était superbe parce qu'on avait fait tout un cycle là-dessus. On avait eu la vague spéculative en 2020-21 sur tout ce qui était renouvelable, l'éclatement de la bulle avec la hausse des taux et puis les valorisations qui étaient devenues un petit peu délirantes. Ensuite, les titres ont stabilisé en 2023. Début 2024, on a eu des gros trous d'air. Moi, c'était une de mes thématiques préférées depuis le début de l'année.
Ouais.
Parce qu'en fait, quand on soulève le capot des marchés qui ne font que monter, eh bien, on avait comme ça...
Des poches d'intérêt.
Des valeurs qui sont de qualité, où on joue une thématique très long terme et qui, en plus, allait profiter d'éventuelles baisses de taux. Donc, il y avait un rattrapage certain à jouer, voire même un coup à long terme vers des records historiques, etc. Donc, moi, j'aurais bien aimé pouvoir tenir Neoen en portefeuille jusqu'à 100 euros et pas me faire sortir.
Pouvait aller à 100 euros
À échéance 5-10 ans, je pense. Mais...
On verra, peut-être que Brookfield les remettra en bourse dans quelques années pour...
Je sais pas, mais c'est un peu frustrant, voilà. Mais c'est...
Est-ce que c'est un marqueur du retour de cette thématique, quand même, des renouvelables, là, que vous chassez depuis quelques temps sur le marché, Nicolas?
Bah, je pense, oui.
Ouais,
parce qu'on a vraiment eu un cycle de A à Z, là, on a un redémarrage, et moi, je trouve que c'est intéressant. On va, de toute façon, avoir besoin d'énergie, et on parlait d'IA il y a quelques instants... Rien que l'IA va nécessiter une puissance énergétique absolument énorme. Ça s'est traduit aussi récemment par la hausse du cuivre, parce qu'on en a besoin pour l'électrification. Est-ce que c'est ce flux-là qui a engendré ça?
Si on est chaud sur l'IA, on est chaud sur le solaire, quoi, aussi.
Ça peut aller de pair. D'ailleurs, on le voit sur des valeurs américaines, on en parlait avant cette émission. First Solar, plus 60% depuis le début de l'année. C'est un magnifique parcours ces trois dernières années. Et c'est des thématiques sur lesquelles on va pouvoir compter dans la décennie à venir.
Parce que américaine.
Alors, pardon. Kevin, vas-y, Kevin.
Parce que américaine, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on peut parler des petites et moyennes qui vont sûrement en bénéficier. Sur les majors, on va avoir un vrai sujet, c'est le sujet des surcapacités à un certain moment, et les taux européens, et l'Europe se retrouve en plus en étau, avec une zone chinoise excédentaire dans sa production, et une zone américaine qui va nous redire America first, quel que soit le président élu, a priori en fin d'année. Donc sur le sujet des renouvelables, c'est pareil, c'est une thématique favorite, passer ce rebond-là, je demande là aussi à voir ce qui va pouvoir engendrer la poursuite du mouvement, je vais dire ainsi. Pardon, Eric.
Non, Dieu sait si on a souffert à conserver ces valeurs-là. Enfin, mais on était du prix de rien à moins 30, moins 40. Enfin, c'est,
oui, donc, des valos à la cave.
Finalement, rester sur les small, c'est un espoir de se dire qu'à un moment, il y a bien quelqu'un qui trouve que ça ne vaut pas ça. Donc, il faut rester malgré tout ce qu'on peut souffrir sur les mid and small. Donc, voilà, c'était juste pour dire que... Il y a à la fin une sortie par le haut pour ce marché-là.
Ah oui. Oui, non, encore une fois, sur des multiples quand même particulièrement élevés pour Neoen. Bon, il nous reste quelques minutes, petit tour de table. Comment, toujours la question à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais enfin, c'est quoi la logique d'investissement à ce stade ? Comment on équilibre un peu une allocation aujourd'hui ? Est-ce qu'on a plus envie d'être sur la défensive ? Est-ce qu'il faut rester constructif ? Est-ce que les baisses de taux vont aider ? Etc. Enfin, comment ça se retrouve dans un portefeuille et une allocation aujourd'hui ?
Moi, je ne sors pas du marché sur les grosses valeurs actions. Je ne suis toujours pas revenu à fond sur les obligs, mais ça depuis très longtemps, parce que j'estime que le marché n'est pas stabilisé au niveau taux long. En plus, je ne suis pas hyper spécialiste non plus. Et je fais du stock picking sur les small.
D'accord. Voilà. Ok. Point. Donc c'est l'univers small aujourd'hui qui est vous disiez le territoire il fait bon être ce moment. Kevin, pour le compte de vos clients privés, là, qu'est-ce qui fait une bonne allocation, un bon équilibre pour traverser les prochaines semaines, les prochains mois, etc.
Le fait de pas écouter trop le bruit ambiant, je vais le dire ainsi, c'est ça paraît évident, mais en réalité on reste sur des valeurs fondamentales en portefeuille, donc c'est très important pour nos clients, notamment parce que c'est notre thématique de clientèle. Hein, je parle pas pour tout le monde. Ce qui anime nos portefeuilles, ce qui continue de les animer, c'est soit du picking fondamental, ça je viens de le dire. C'est encore de l'obligataire, globalement. Il me semble qu'on arrive... Alors, je prêche peut-être parfois dans le désert, mais il me semble qu'on arrive à la dernière fenêtre d'achat sur de l'obligataire de qualité, je le précise bien, en euros et en corporate. Je dois mettre beaucoup d'adverbes là-dessus.
Dans la logique de bloquer un rendement pour le futur.
Absolument. On exclut évidemment le dollar de cela, parce que le dollar présente des spreads absolument déprimants aujourd'hui. Mais sur la partie européenne, on est encore relativement bien payé pour prendre un risque mineur. On arrive à s'en sortir sur du global blend, on doit être en aggregate à 110 points de base de spread.
Ouais, ouais.
Pour le compte de nos clients, on arrive aujourd'hui à aller chercher du papier triple B, 150-170 points de base de spread.
D'accord.
C'est pas effarant, mais aujourd'hui, dans un univers qui nous amène sur une baisse des taux et surtout, on l'espère, sur une normalisation inflationniste, on peut considérer que figer aujourd'hui ce rendement-là, 3-7 ans, fait sens.
Ouais, ça fait le job.
Absolument, ouais. Notamment si on a une perte d'intérêt du monétaire dans les prochains mois.
Ouais. Ça, on verra effectivement à quel rythme les gens commencent à sortir du monétaire après des flux massifs parqués effectivement sur des produits de court terme, livrés ou autres.
Trois produits. Le monétaire va évidemment animer sûrement les 18, je pense pas avant 18 mois parce qu'on a un effet très très long
d'inertie
dessus. Et d'autant plus que la rémunération du monétaire est linéaire. Donc de ce point de vue-là, il y a un vrai intérêt aujourd'hui pour l'investisseur. Il ne le retrouve pas dans l'obligataire parce que l'obligataire nous apporte la volatilité du taux en réalité. Donc on se retrouve embarqué en fait dans un mouvement de marché, ce qui n'est pas le cas du monétaire. Et puis sur le monétaire, on aura aussi besoin d'un arbitrage. On ne va pas vendre du monétaire, en fait on va vouloir acheter de l'investissement, de l'equity notamment.
C'est ça.
Donc on a besoin, on en parlait tout à l'heure, du catalyseur pour revenir.
Ouais.
L'autre point, c'est éventuellement le capital garanti. Ça, on en parlera beaucoup plus en gestion privée. Le capital garanti aussi va être mis sur la table parce que là, pour le coup, on va avoir des calls qui vont arriver assez rapidement. On va rester dessus.
Nicolas.
Moi, j'aime bien l'idée pour notamment les jeunes investisseurs que j'accompagne d'avoir un portefeuille diversifié, multiclasse d'actifs. Donc d'avoir,
c'est quoi le portefeuille du jeune investisseur, là, alors ?
C'est ça, c'est entre 5 et 10% de crypto-monnaie, pour pas non plus avoir trop de volatilité en portefeuille, autour de 15% de métaux précieux. Moi, j'adore l'or et l'argent, et ce, depuis des années, donc je continue d'aimer cette thématique, d'autant plus quand on voit en fait les achats de toutes les banques centrales à travers la planète sur l'or. Le signal, à mon avis, de la cassure des 2000-2100 dollars, des plus hauts historiques, c'est quelque chose de très fort et qui nous ouvre une voie pour, je pense, les années à venir.
Un cycle, quoi.
Donc d'avoir soit des ETF si on veut faire de la gestion passive simplement, de l'or, des crypto-monnaies. Si on est un peu plus actif, bah, on l'a dit, je crois, aujourd'hui, hein, de faire un petit peu de stock picking. Et puis de garder une petite poche de cash dans l'idée où sait-on jamais, pendant l'été, alors que tout le monde est
le
à la plage... Un joli trou d'air.
Le trou d'air. Alors,
ça peut arriver pendant l'été, parce que je crois que vous avez manqué de soleil hein, dernièrement. Il faudrait que les gens veuillent en profiter.
On a pas mal le même temps.
Ou bien même en septembre, avant les élections américaines, puisque quand on regarde la saisonnalité des années d'élections présidentielles, les trous d'air sont relativement nombreux.
Ah oui.
Ouais.
D'accord.
Sur septembre-octobre.
Bon, eh ben, on suivra ça. Effectivement, bon, la prochaine étape avant l'été, les élections américaines, c'est demain et la décision de la Banque Centrale Européenne. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nicolas Chéron, stratégiste indépendant. Kevin Lenoir, directeur associé chez Avantgarde Family Office. Et Eric Venet, directeur de la gestion de Montbleu Finance.